Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Au bord du trottoir, pêle-mêle, il n'y a rien que des poubelles.
Bonjour à tous. Et si pour mieux jeter, mieux trier, il fallait tout simplement moins jeter? L'objectif est ambitieux sur un continent européen où moins de la moitié des déchets ménagers est recyclé ou composté. C'est tout le pari qu'ont fait plusieurs communes suisses. Les sacs poubelles sont délivrés par les services de la mairie et plus vous en consommez, plus vous payez. En quelque sorte, le principe du pollueur-payeur. Mais parce que ce système fait reposer toute la responsabilité sur le citoyen consommateur, il a aussi ses détracteurs. C'est le reportage à Genève de Jérémy Lanche.
Ce bruit du camion poubelle qui vous réveille au petit matin pourrait-il un jour disparaître? Depuis la généralisation de la taxe au sac, le volume des incinérables a baissé de 40% dans certains cantons suisses. Dans le même temps, les volumes recyclés, eux, ont augmenté. Partout, on retrouve les mêmes ordres de grandeur, partout, sauf à Genève. La deuxième ville de Suisse résiste encore et toujours à l'envahisseur du sac poubelle surtaxé, car la taxe au sac n'a pas que des avantages. C'est ce que dit Marlène Sahakian, elle est sociologue de la consommation à l'Université de Genève.
Ce taxe sur les sacs tend à sur-individualiser la responsabilité au titre des ménages, quand on pourrait imaginer que le problème est ailleurs, notamment en amont, dans les systèmes de production et de distribution. Donc certes, on a besoin de l'emballage pour des questions de sécurité alimentaire, mais on en a simplement trop, on le constate nous-mêmes.
Alors, injuste la taxe au sac. À Genève, même les Verts sont divisés sur la question. La taxe au sac peut aussi inciter à la fraude dans les pays voisins. Comptez par exemple 150 euros pour chaque sac poubelle si vous vous faites coincer par les douanes françaises. En fait, qu'on soit pour ou contre la taxe au sac, peu importe, dit Marlène Sahakian, mais il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga de la politique de gestion des déchets.
On voit de plus en plus de déchets dans le paysage, donc les gens, au lieu de remplir leurs poubelles noires taxées, vont peut-être jeter des éléments dans la nature, et fondamentalement, pour moi, c'est une question d'inégalité sociale. Il y a ceux et celles qui peuvent se payer des taxes sur les poubelles, il y en a pour d'autres, c'est quand même un budget assez significatif. Pensons aux parents qui ont des couches pour leurs enfants.
Car le problème de fond, c'est bien sûr la surconsommation. La Suisse est l'un des pays les plus riches au monde. Le pouvoir d'achat y est donc important. Le pouvoir de gaspiller également. Si la Suisse figure parmi les champions du recyclage, elle est aussi le deuxième pays qui jette le plus de déchets en Europe. Malgré la taxe au sac et le recyclage, la quantité totale des ordures a doublé en Suisse en l'espace de 30 ans. Le balai des bennes à ordures a encore de beaux jours devant lui.
C'est une migration dont on parle peu, celle des Brésiliens qui quittent leur pays pour des raisons économiques ou pour des raisons politiques aussi, pour aller s'installer au Portugal. Des étudiants, pour moitié, mais aussi des intellectuels, de riches investisseurs ou de simples travailleurs. Portrait d'une communauté évaluée à 100 000 personnes et dont le nombre ne cesse d'augmenter, Marilyn Darcy.
À l'été 2019, les files d'attente devant les locaux du CEF, le service de l'immigration à Lisbonne, étaient telles que le gouvernement a tout simplement décidé de suspendre la délivrance des autorisations de résidence. La principale raison de cet engorgement bureaucratique, les demandeurs brésiliens. Avec un cinquième des 500 000 immigrés recensés, les Brésiliens constituent la première communauté étrangère au Portugal. Le flux migratoire antérieur à l'élection du président Jair Bolsonaro en octobre 2018 s'est intensifié avec son arrivée au pouvoir. Les Brésiliens, issus des minorités, des artistes, des intellectuels, se sentant menacés, ont franchi le pas et l'Atlantique pour trouver refuge dans un pays sûr et ouvert. Cependant, l'essentiel de la communauté brésilienne résidant au Portugal se trouve sur les campus. Les étudiants de Rio ou de São Paulo constituent la plus grosse communauté estudiantine, avec 45 000 jeunes inscrits dans les facs. Le Portugal est par ailleurs un Eldorado pour les riches brésiliens. En contrepartie d'investissements immobiliers, ils obtiennent des autorisations de résidence de 2 ans. Au total, 132 millions d'euros ont été investis par les Brésiliens. Le gouvernement portugais souhaiterait que l'investissement contre autorisation de résidence soit davantage créateur d'emplois et plus à l'intérieur du pays. Mais les riches Brésiliens sont-ils prêts à renoncer à leur belle villa en bord de mer? Quant à une frange de la population brésilienne, elle occupe des emplois dans la construction, l'aide à domicile et surtout le tourisme où la maîtrise des langues et un vrai sens de la communication font merveille.
Et parmi ces nouveaux migrants au Portugal, on trouve aussi des travailleurs pauvres, assistantes à domicile ou auprès de personnes âgées, fermiers ou manutentionnaires, pardon. Certains d'entre eux sont déçus. Le rêve portugais n'a pas tenu ses promesses. Ils sont plus de 300 à s'être inscrits pour rentrer au pays grâce au programme Arvore, mis en place par l'Organisation internationale des migrations, un billet retour au Brésil et un pécule pour monter une nouvelle activité. Sarah Cozzolino les a retrouvés à leur retour près de Rio de Janeiro.
Après 3 ans au Portugal, Vera Barros est soulagée de rentrer. Elle habite désormais chez son fils, sa belle-fille et leurs enfants à Nova Iguaçu, une ville en banlieue de Rio.
3 ans, mon Dieu, pour moi c'était interminable. C'est comme si ça avait été 13 ans.
Car c'est en arrivant au Portugal à 52 ans que Vera prend pour la première fois conscience de sa couleur de peau. Aide à domicile chez des personnes âgées, elle est confrontée au racisme tous les jours.
Là-bas, ils n'aiment pas les personnes noires. Les Portugais n'aiment pas les noirs. J'ai travaillé dans une maison et le fils de la dame dont je m'occupais a voulu coucher avec moi. Comme j'ai refusé, j'ai été renvoyée. Il disait « Vous, les Brésiliens, vous êtes ici pour nous servir, nous, les Portugais. » Et moi, j'ai répondu « Non, monsieur, je ne suis pas une prostituée. Moi, je travaille honnêtement. » Puis il a raconté des choses à sa mère et elle m'a virée. Et personne ne m'a payée. Ça faisait 28 jours que je travaillais, mais elle ne m'a pas payée. Elle m'a dit d'aller réclamer mes droits, mais elle savait que je n'avais pas de papier.
Pourtant, 3 ans plus tôt, Vera avait quitté les côtes brésiliennes pleines d'espoir. Elle vend alors tous ses meubles, s'achète un billet d'avion et arrive au Portugal avec les 300 reais, soit 75 euros qu'il lui reste.
Moi, je pensais qu'au Portugal, comme il y a l'euro, j'allais pouvoir travailler et gagner suffisamment ma vie pour m'acheter une maison au Brésil. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Le salaire là-bas, c'est une honte. 600 euros par mois, mais c'est rien, parce que les loyers sont incroyablement chers. Moi, je vivais en me serrant la ceinture, je ne pouvais jamais économiser. Parce qu'en gagnant 600 euros, et encore quand on me payait, je devais payer 350 euros pour ma chambre. Il me restait 250 euros. Je ne faisais rien, rien. J'avais besoin de payer pour mon alimentation, les transports. Je ne pouvais pas économiser.
À l'époque, Vera souffre en silence. Elle est battue par une de ses patronnes, mais ne dit rien par peur d'être renvoyée. Au téléphone avec son fils, elle pleure souvent, mais lui assure qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète. Jusqu'au jour où elle entend parler du projet Arvore de l'Organisation internationale pour les migrations. Elle prend alors rendez-vous et 3 mois plus tard, elle obtient un billet de retour pour le Brésil.
Ils nous aident énormément. Par exemple, si on a le projet d'ouvrir un salon de coiffure, comme c'est mon cas, je leur ai expliqué et ils m'ont demandé d'envoyer la liste de tout ce dont j'avais besoin. J'ai tout noté et ça faisait 2000 euros. Ça y est, j'ai pu tout acheter, j'attends plus que la livraison. Ce projet, c'est vraiment une bénédiction. Sans eux, je serais encore là-bas en train de souffrir.
Le projet Arvore a pour objectif d'aider les personnes qui veulent rentrer dans leur pays mais n'ont pas les moyens de se payer le billet d'avion. Après 1 an au Portugal, Pedro Mandaca, lui aussi, a eu recours à ce programme. Cet ingénieur naval y a cumulé les petits boulots. Avant de rentrer, il était employé dans une ferme.
Le patron m'a logé dans une petite maison qui tombait en ruine. Une maison horrible, avec les murs complètement fissurés. Je lui ai dit qu'il devait au moins me donner de l'argent pour que je m'achète à manger. Mais j'ai dû m'acheter de la nourriture avec de l'argent qu'il me restait, parce qu'il est parti et il n'est revenu que 20 jours plus tard avec 2 cartons de yaourt. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il m'exploitait. Et j'ai commencé à chercher sur Internet comment je pourrais trouver de l'aide pour rentrer au Brésil.
Pedro est chilien et vit depuis 40 ans au Brésil. Il a eu 2 filles avec une Brésilienne, mais espérait vivre dans un pays moins violent. Lui aussi a subi de douloureuses discriminations au Portugal.
Un jour, alors que je travaillais dans une boucherie, le propriétaire, à l'heure du déjeuner, s'est tourné vers moi et m'a dit « Profite de ton repas parce que tous les étrangers, vous venez au Portugal pour nous voler notre nourriture et notre travail. » À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais déjeuné là-bas. Je mangeais chez moi le soir.
Pedro est rentré depuis 3 mois au Brésil. À 63 ans, il sort tous les jours pour chercher du travail, mais n'a toujours rien trouvé et commence à désespérer.
Parfois, sincèrement, j'ai envie de partir en courant, de disparaître. Je ne le fais pas parce que quand je m'apprête à le faire, je me souviens que j'ai mes filles.
Pedro assure ne pas regretter d'avoir tenté sa chance. Maintenant qu'il est rentré et comme tous les bénéficiaires du projet, il n'a pas le droit de remettre les pieds au Portugal pendant au moins 3 ans.
Et l'Espagne attire aussi bon nombre de latino-américains et en premier lieu des équatoriens, troisième communauté étrangère après les marocains et les roumains. Ils sont aujourd'hui 500 000, bien intégrés grâce à leur carte de résident permanent. Portrait de groupe signé Diane Cambon.
Les équatoriens sont arrivés en masse au début des années 2000. À cette époque, le petit pays andin traverse une grave crise financière, poussant des milliers d'habitants à l'exil économique. La majorité partent aux États-Unis, les autres en Europe et surtout en Espagne. La mère patrie ne demandant qu'un visa de tourisme pour entrer sur le territoire. En 20 ans, ils sont passés de 40 000 à 500 000 migrants. Leur intégration ne s'est pas faite du jour au lendemain. La majorité d'entre eux ont dû accepter des emplois très mal rémunérés, notamment dans l'agriculture ou le bâtiment. Mais qui leur a permis d'obtenir rapidement des visas de travail donnant l'accès à la carte de résident. Les femmes travaillent plutôt dans le service et l'aide à domicile. L'Espagne vit alors ses jours de gloire économique et embauche à tout va. L'éclatement de la bulle immobilière en 2008 mettra fin au rêve espagnol pour ces migrants. Ils sont environ 10 000 à choisir de rentrer au pays pour tenter leur chance. L'Équateur est alors en plein boom économique et propose des aides pour revenir au pays. Mais en 20 ans, une génération d'enfants a grandi sur le territoire espagnol et pour eux, pas question de vivre à l'année en Équateur. La majorité vivent dans les quartiers latinos des grandes villes qui sont devenus leur référence.
On n'a pas fini d'entendre parler de Donald Tusk. L'ex-premier ministre polonais brigue cette semaine la présidence du PPE, le Parti populaire européen, le plus grand groupe de députés de droite au Parlement européen. Une personnalité forte qui n'hésite pas à avoir des avis bien tranchés. À la présidence du Conseil européen, il a toujours fait savoir ce qu'il pensait, notamment via des tweets qui sont restés en mémoire. Son portrait est signé Anissa El Jabri.
Je ne suis pas un diplomate, je suis un politique, c'est Donald Tusk qui le dit. Le futur ex-président du Conseil européen, il l'est encore pour quelques jours, le sait bien. Sa franchise a parfois hérissé les dirigeants européens. Elle a aussi fait son succès. En 5 ans, son compte Twitter est passé de 200 000 abonnés à plus d'un million. Ses lecteurs ont eu la primauté de sentences tranchantes adressées à Donald Trump à la veille d'un sommet de l'OTAN.
Chère Amérique, considérez mieux vos alliés. Après tout, vous n'en avait pas tant que ça.
En mai 2018, quand le président américain rompt l'accord sur le nucléaire iranien.
Avec des amis comme ça, on peut se passer d'ennemis.
En février 2019, cette fois pour les Britanniques.
Je me demande à quoi ressemblerait cet endroit spécial en enfer pour ceux qui ont promu le Brexit sans même un plan pour le mener à bien en toute sécurité.
Dans sa famille politique, Donald Tusk n'a pas non plus sa langue dans sa poche. Au congrès du PPE l'automne dernier, à quelques mois de la campagne des européennes, il vise l'illibéral hongrois Viktor Orban sans le nommer.
If you are against the rule of law,
si vous êtes contre l'état de droit et l'indépendance de la justice, alors vous n'êtes pas un chrétien démocrate. Si vous n'aimez pas la presse libre et les ONG, si vous tolérez la xénophobie, l'homophobie, le nationalisme et l'antisémitisme, vous n'êtes pas un chrétien démocrate. Nous voulons tous gagner les élections à venir, mais souvenons-nous que ce qui est en jeu, ce ne sont pas simplement des avantages et des emplois, mais la protection de nos valeurs fondamentales, parce que sans elles, notre victoire n'aurait aucun sens.
Pas prophète en son pays. En revanche, Donald Tusk, la Pologne est elle-même de longue date dans le viseur de Bruxelles pour violation répétée de l'état de droit. L'ex-premier ministre y est violemment attaqué. Il a renoncé à se présenter à la présidentielle en 2020. Adrien Baudouin, doctorant à l'Université d'Europe centrale.
Tusk se rend compte qu'il a encore sa base de partisans, peut-être 25-30% de la population, mais c'est évidemment quelqu'un qui divise puisqu'il a quand même été au pouvoir entre 2007 et 2014. C'était la crise mondiale. Il a réussi à que le pays évite la crise, mais il y a eu beaucoup de mesures d'austérité qui l'ont rendu assez impopulaire aussi auprès de certaines couches de la population. Il faut dire aussi qu'il a été touché, son parti a été touché par un scandale d'écoute illégale qui ont un peu montré que ce gouvernement, autour de bons verres de vin et de mets assez sélects, s'exprimait sur les affaires du pays et arrangeait les coups. Et ça a donc vraiment créé l'image d'une élite déconnectée du peuple. Et Tusk en souffre encore.
Pour la tête du PPE, Donald Tusk est en revanche seul en lice, le signe d'un basculement du pouvoir au sein de la droite européenne. Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schuman.
Le PPE a connu une évolution interne due à l'effondrement de certains partis de droite en Europe, en France, en Italie, en Espagne et au Portugal. Et donc le PPE, il représente davantage l'Europe centrale aujourd'hui que l'ensemble des pays qui sont adhérents. L'origine de la création de l'Union européenne était franco-allemande. Désormais, le PPE est plus du côté de Berlin et de Varsovie que de Paris.
Le PPE qui regarde toujours plus à l'Est, pour Donald Tusk, c'était ce mercredi. Il n'y aura pas d'Europe souveraine sans Balkans stables intégrés au reste du continent. Il ajoute ce coup de griffe. Et il n'est pas nécessaire d'être un historien pour comprendre cela. Emmanuel Macron, opposé à tout élargissement, est prévenu.
Et c'est en Hongrie, un pays qui n'a pas été épargné par Donald Tusk, justement pour le non-respect de l'état de droit, que se tient le festival Verzio, un festival international de documentaires sur les droits de l'homme. Succès assuré auprès du public et belle surprise du côté des œuvres présentées à Budapest, Florence Labrouillard.
La sélection très riche du festival explore la condition humaine avec ses tragédies et ses aventures cocasses. Et le temps fort de la manifestation, c'est un petit film tourné sur un téléphone portable par un réfugié iranien. Oksana Sarkisova, directrice du festival.
Ce film a été tourné par un demandeur d'asile qui est détenu dans un camp en Hongrie. Cela fait des mois qu'il attend la réponse à sa demande d'asile et qu'il est enfermé dans ce camp avec son fils. Il a fait un film de 3 minutes, sans dialogue, qui s'appelle Poisson. C'est l'expérience très émotionnel de quelqu'un qui est enfermé.
Abouzar Soltani est iranien et chrétien de confession. Pour échapper aux persécutions, il a fui l'Iran avec son fils Armin. Il a filmé son garçon de 10 ans en train de peindre des images sur la fenêtre du conteneur où ils habitent. À travers la fenêtre, on voit le camp de réfugiés complètement encerclé de barbelés. Et sur la fenêtre, l'enfant dessine des vagues bleues outre-mer et des poissons.
C'est un film court et très fort parce qu'il y a un grand contraste entre la réalité cruelle du dehors, la culture du camp, les gardes et le monde imaginaire que l'enfant dessine, la mer, les poissons.
Bolage, spectateur budapestois, est ému par le film. En Hongrie, plus de 300 demandeurs d'asile, dont la moitié sont des enfants, sont détenus derrière des barbelés.
C'est cruel parce que les enfants sont détenus pendant des mois, parfois pendant plus d'un an. À ma connaissance, il n'y a pas d'école, ni d'activité organisée pour eux. J'ai 3 enfants et je ressens cette douleur des parents enfermés dans un petit espace avec des enfants qui ne peuvent ni sortir, ni s'amuser avec des jouets.
Les autorités hongroises n'ont pas permis à Abouzar de venir assister à la projection de son film. Le court-métrage du réfugié iranien n'est pas dans la compétition officielle, mais il pourrait recevoir le prix du public.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. À demain.